On est dans Apocalypse chapitre 4 et dans un moment vraiment important. On va regarder chapitre 4 aujourd'hui, le chapitre 5 dans deux semaines avant Noël. Et je suis content qu'on le fasse avant Noël parce qu'il me semble que ces deux chapitres qui présentent une seule et grande vision de la gloire de Dieu nous sont tellement, c'est tellement bon pour nous avant le temps de Noël pour donner de la perspective à la grandeur du Dieu qui a bien voulu envoyer son Fils parmi nous, pécheurs qui avons rejeté le Créateur, un œuvre de grâce, de patience de la part du Créateur qui a envoyé son Fils sur terre, incarné parmi les pécheurs qu'il avait rejetés dans le but de nous racheter. C'est ce qu'on célèbre, vous savez, à Noël. Et qu'on va célébrer dans un mois. Et le chapitre 4-5 célèbre justement la gloire du Créateur parfait, grand, tellement grand que les mots nous manquent pour décrire la gloire de Dieu quand on est devant Lui, pour décrire comment il est incroyable, qu'il nous éblouit, qu'il nous renverse, qu'il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, et de le célébrer pour le fait qu'il est Créateur, et le célébrer en même temps qu'il est en même temps Rédempteur par son Fils, par l'agneau, de nous avoir rachetés de notre situation perdue. Et chapitre 4 et 5, c'est ce qu'il célèbre. Aujourd'hui, on regarde le chapitre 4, dans deux semaines, le chapitre 5. On va célébrer Dieu comme Créateur et d'avoir une vision du ciel et une vision de la grandeur de Dieu au ciel qui va nous aider à vivre sur terre avec ce qu'on voit. Parce qu'évidemment, ce qu'on voit au ciel et ce qu'on voit sur terre contraste beaucoup. C'est pas pour rien que vous avez de la colère. C'est pas pour rien que vous vivez de la peine, que vous êtes déçu régulièrement, que vous n'êtes pas satisfait. C'est que sur cette terre déchue, qui a rejeté le Créateur, maintenant, l'expérience humaine est difficile. L'expérience humaine est remplie d'émotions négatives, de travail, de labeur, de choses qu'on doit refaire et refaire, qui nous épuisent. Et ce n'était pas le but du Créateur au début. C'est lié au choix qu'on a fait de rejeter le Créateur. Et lorsqu'on est sur terre, on regarde autour, il n'y a pas de justice. Il y a des choses qui nous révoltent, des gens qui s'en tirent avec le mal, il y a de l'hypocrisie, il y a du contrôle, il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses qui sont toutes le contraire de ce que Dieu nous dit dans la Bible. On se dit, mais tout ça, où est-ce que ça mène? Puis, y a-t-il une finalité, y a-t-il une justice qui va se faire? Et là, quand on rentre au chapitre 4-5, avant de regarder les jugements qu'il va y avoir sur terre, là, on a une perspective du ciel, de celui qui est au contrôle et au-dessus de tout. Et on l'a chanté tantôt, « Car tu es Dieu au-dessus de la terre, ton trône est dans les cieux. » Mais nous, on est juste en dessous de tout ça. Et il n'y a rien échappé. Peut-être ça a l'air chaotique présentement, mais lui reste au contrôle et tout ça s'en va à quelque part. Et l'Apocalypse nous dit où est-ce que ça s'en va. Et pour nous préparer à ce qui va être choquant pour nous, pour nous préparer au jugement qu'il va y avoir sur terre, des millions de morts, des souffrances, des choses qui vont arriver aux gens sur la planète Terre pendant la tribulation qui va nous être décrite à partir du chapitre 6 et suivant, on a besoin d'une vision de Dieu qui est sur le trône et de la grandeur, de ce qu'il mérite comme respect, de sa toute-puissance, de son contrôle et comme créateur, et de son plan pour comme faire, OK, c'est correct ce qui se passe sur terre à cause de ce qu'on a rejeté. Il faut une vision de Dieu claire pour être capable de voir que ce qui se passe sur terre après a du sens et ce n'est pas injuste, ce n'est pas trop dur, ce n'est pas méchant de la part de Dieu, mais au contraire, même ces jugements-là, écoutez bien, même les jugements qui sont là sont même gracieux de la part de Dieu. Comment tu peux dire la même, Joël? Des jugements de Dieu, des millions de personnes qui meurent, c'est gracieux de la part de Dieu. Oui, vous avez tout bien compris. Écoutez bien pourquoi. Tout ce qui se passe dans les chapitres 6 et ce qui suit, cette période de tribulation, c'est une dernière chance que Dieu donne à l'être humain de se repentir avant qu'il vienne. Il nous le dit dans les Écritures, il va le faire exercer dans l'avenir qui s'en vient bientôt, on ne sait pas quand. Et les gens vont pouvoir lire et savoir que ce qui se passe a été annoncé. qui s'en vient bientôt. Et que ces jugements sont en train de dire, Dieu, il est fâché. Puis il y a des bonnes raisons d'être fâché. Revenez à lui. Et il nous donne, aux êtres humains qui vont rester sur terre à ce moment-là, une autre opportunité, une chance de revenir à lui. Ces jugements-là sont en train de dire, il y a une raison pourquoi vous vivez ça. Et c'est un Dieu bon qui vous invite, qui vous aime, qui vous donne une autre chance de répondre à lui. Ce n'est pas juste un jugement gratuit. Parce que Dieu sait fort bien que ce qu'on mérite présentement, c'est qu'on soit tous anéantis. On est tous pécheurs, responsables d'avoir rejeté le Créateur, méritant la mort. Rappelez-vous, Genèse chapitre 2. Certainement, tu mourras. Et certainement, les gens sont morts. On le dit au chapitre 5 de Genèse. Et il mourut, et il mourut, et il mourut. Ils ont vécu longtemps, et ils sont morts, ils sont tous morts. Mais plus encore, une mort spirituelle qui aurait pu arrêter cela, il donne l'opportunité sur terre encore de répondre. Et donc, oui, même les jugements, c'est une grâce. Mais il faut voir le chapitre 4-5 pour le comprendre et l'apprécier. Et je vous avoue que, honnêtement, j'ai fait mes devoirs. Je me suis préparé. J'ai des notes, j'ai étudié le texte grec, j'ai passé des heures à le préparer. Mais ce que je vous partage, c'est pas un travail académique. Je dois vous présenter ce matin, en lisant les Écritures, une scène céleste. Et je vous avoue, comme prédicateur, que ça nous fait vraiment sentir comme Tikkun. Comment vous présentez une scène qui, moi-même, me dépasse? Et soyez gracieux, puis je vous demande ce matin, en priant, en commençant, on va lire les Écritures, Seigneur, ouvre mes yeux. Aide le prédicateur, puis aide-nous à te voir comment tu es grand, comment tu mérites notre confiance, comment tu mérites notre soumission, comment tu mérites notre crainte, comment tu mérites que je te donne tout, puis que tu sois mon tout dans ma vie. Tu le mérites tellement, c'est incroyable. Mais je prie le Seigneur qu'il puisse vous le montrer ce matin. Moi, je suis pas capable de vous le montrer. Je vais vous lire la parole, je vais vous l'exposer, et j'espère que le Seigneur va m'ouvrir le cœur comme chacun d'entre nous a le besoin de voir sa grandeur. Et tout à coup, si on voit sa grandeur, les amis, même les anges se couvrent, eux qui sont parfaits, se couvrent devant la gloire de Dieu, nous dit Ésaïe chapitre 6. Les anges qui sont parfaits devant la gloire de Dieu se couvrent les pieds, se couvrent les parties, se couvrent une bonne partie de leur corps devant la gloire de Dieu, eux qui sont à son service et qui n'ont pas fait de faute. Imaginez-nous, graciés par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, son Fils. Quel privilège! Et je prie que le Seigneur nous le montre, et je vais vous lire quelques versets, on va prier, puis après quoi on va se lancer dans cette aventure de regarder cette vision incroyable de Dieu. Je vous lis quelques premiers versets. Et après quoi, je vais vous introduire avec une prière, puis le PowerPoint qui est devant nous. Après cela, je vis, au chapitre 4, verset 1, une porte. Alors, rappelez-vous, il y a eu une porte d'opportunité à l'église de Philadelphie. Une porte de service, une porte d'opportunité, une fenêtre qui était là pour eux. Et c'est le même mot. Et après ça, le Seigneur nous a dit au dernier chapitre, vous vous rappelez, hein? Tu peux-tu ouvrir la porte de ton cœur pour me permettre de rentrer? Parce que même si on avait une relation, tu m'as comme mis un peu dehors, là, dans ton refroidissement. Et de me laisser rentrer pour être en relation avec toi. Et là, il y a une porte au ciel que le Seigneur va lui permettre, lui, d'entrer, Jean, pour voir. Une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue me parler, telle une trompette. Donc, dans chapitre 1, la voix d'un ange, de porte-parole de Jésus, qui dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Ah, là, on a parlé aux églises, mais là, on va parler de ce qui s'en vient ensuite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici un trône se dressait. Donc, pour voir tout ça, il faut qu'il soit saisi par l'Esprit. C'était pas naturel, une expérience sur terre. Il y a une expérience avec l'Esprit pour voir ça amené à quelque part. Il y avait un trône qui se dressait dans le ciel. Et siégeait sur le trône quelqu'un. On va nous le dire un peu plus loin. C'est le Père Céleste. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Une gloire nibait le trône de reflets d'émeraude. Alors, ici, les pierres qui sont parlées, ce sont des pierres qu'on retrouve aussi pour décrire dans le royaume éternel, dans la Nouvelle Jérusalem, chapitre 21. Ce sont des pierres précieuses qui sont utilisées là. C'est aussi des pierres précieuses qui se retrouvaient sur le sacerdoce, sur la plaque qui était ici pour le sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il y avait des pierres qui représentaient son rôle, mais aussi chacune des tribus, des pierres précieuses, montrant que chaque tribu était précieuse, qui était sur... Et c'est les pierres les plus belles du monde, les plus brillantes, les plus précieuses, les plus de valeur. Et là, on décrit ici ce qu'il voit ici avec une grande valeur humaine. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Parce qu'il dit évidemment une gloire autour du trône, et on parle ici de l'aspect d'une pierre. C'était pas une pierre, ça avait l'aspect brillant, d'une couleur incroyablement belle, comme autour du trône, 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens siégeant vêtus de blanc, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. 7 lampes ardentes brûlaient devant le trône, et ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer limpide ou cristalline, semblable à du cristal. Encore là, c'est pas du cristal, c'est pas une vraie mer, mais une mer comme. Donc, quelque chose de grand, de vaste, d'impressionnant, de transparent, au milieu du trône, et l'entourant 4 animaux couverts de yeux. OK, ça c'est un peu étrange. Des animaux couverts de yeux. Par devant et par derrière. Le premier animal ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième comme une face humaine, et le quatrième semblable à un aigle en plein vol. Les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, couverts de yeux aussi leurs ailes, tout autour et au-dedans. Ils ne cessaient jour et nuit de proclamer « Saint, Saint ». Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Parle-nous ce matin. On a besoin de voir clair. Montre-nous ta grandeur, s'il vous plaît, Seigneur. Révèle ta grandeur à chacun d'entre nous et que l'on tombe à genoux, Seigneur. À genoux dans nos cœurs, à genoux physiquement, à genoux dans toutes les sphères de nos vies. Tu mérites qu'on soit à genoux parce que tu es tellement grand. Montre-le-nous, Seigneur, ce matin. Aide-moi, aide-nous. Je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Évidemment, quand je cherchais sur l'Internet, voir si je pouvais trouver une image intéressante qui pouvait peut-être aider. Il y a toujours des faiblesses dans les images, et souvent les images sont très religieuses, comme celle-ci. Des images qui deviennent finalement iconiques, qui nous aident pas tout le temps, qui ont des éléments intéressants, des éléments qui manquent, des éléments mal faits. Alors, j'ai rien trouvé d'intéressant qui me satisfaisait. Et je me suis dit, si je mets une mauvaise image, ça va pas aider, ça va empirer, ça va mettre juste quelque chose de trop humain à quelque chose qui nous dépasse tellement. C'est pour ça que c'est loin en arrière-plan. Mais un exemple de ces images que les gens ont essayé de se faire du trône, tellement limitées et qui finalement ne font pas la job ultimement, deviennent plus des reliques et des images religieuses. Je vous rappelle ici que dans notre structure, voici où ce qu'on est. On a regardé au chapitre 1, verset 19, la structure quand on a commencé en début septembre. Et le livre se sépare de cette façon-ci. Il y a un intro, il y a ce qu'on appelle un prologue, un épilogue à la fin. Et entre les deux, il y a 3 sections que le chapitre 1, verset 19 nous disait. Premièrement, ce que tu as vu, la vision du chapitre 1 dans l'immédiat, la vision de Christ. Et ensuite, ce qui est l'état des églises de l'époque, une exhortation à chacun d'entre nous aussi, parce qu'on fait partie de l'Église. Et c'est ma prière qu'à travers les dernières semaines, excusez-moi, j'ai encore la fin de tout qui me reste, à travers les dernières semaines, je prie que le Seigneur ait vraiment rencontré vos cœurs pour trouver là où le Seigneur parlait à des églises à l'époque et qu'il vous parle aujourd'hui. J'espère que le Seigneur vous a rencontré d'une manière quelconque dans un domaine de votre vie qu'il veut vous faire grandir dedans, qu'il veut corriger, encourager, fortifier, amené à la repentance. Peu importe que le Seigneur vous ait rencontré, parce que c'est son désir. Et si vous avez écouté les sept églises d'Apocalypse, parce que vous l'avez déjà entendu, je connaissais déjà ça, que c'était de l'information, et vous êtes comme quelqu'un qui est allé devant un miroir le matin, servir de bord, puis fait comme si de rien n'était. Le Seigneur veut toujours nous rencontrer. La Bible nous invite à pas être des auditeurs oublieux, endurcis, qui se regardent dans le miroir, puis qui finalement font rien. Il y a quelque chose que le Seigneur avait pour vous. Et si vous n'avez pas rien trouvé encore, retournez lire. À genoux. Seigneur, montre-moi ce que tu veux me montrer. Le Seigneur veut nous rencontrer, c'est certain. Collectivement et individuellement. Parce qu'on est son corps, mais on est aussi ses enfants, individuellement. Et ensuite, on a une troisième partie, et ce qui va arriver ensuite, donc l'avenir, après cela. Et le chapitre ici commence avec au verset 1, hein, après cela. C'est le même mot. C'est exactement le même mot qui est là, après cela. On est dans le après cela. Une scène au ciel et une scène sur terre qui vont suivre. Je vous remets ici l'image que j'ai mise au tout début pour vous donner un portrait de tout le livre ici, excepté les trois premiers chapitres. Où ce que dans les si vous regardez au milieu, il y a la progression dans le livre, où ce qu'on a les sept années de la tribulation, une première moitié approximative, le milieu et la deuxième moitié, et puis la conclusion, où ce que le règne des mille ans et l'éternité. Et dans cette partie-là, il y a des scènes au ciel, chapitre 4-5. Puis ensuite, cette scène-là nous aide à gérer ce qu'on va voir sur terre au chapitre 6, les jugements sur terre. Il y a une scène au ciel, chapitre 7, qui va nous aider, elle, à gérer ce qui va se passer dans le jugement du chapitre 8 et 9. Il y a toujours un mouvement, une scène au ciel, une scène sur terre. Une scène au ciel, une scène sur terre. Et ça nous aide ici à comprendre dans les scènes célestes, de nous donner la perspective divine à ce qui se passe sur terre. Si on regarde juste sur terre des jugements, on est découragé, ça nous fait peur, on trouve ça injuste, on comprend pas le sens. C'est les scènes au ciel qui donnent du sens à ce qui se passe sur terre. Vous me suivez bien? C'est très important ce que je vous dis là pour comprendre à mesure qu'on avance dans le livre et apprécier votre lecture. Ces mouvements-là nous aident à avoir la perspective divine de ce qui se passe sur terre. Oh, là, je suis embourbé dans ce qui se passe sur terre. Oh, une scène céleste qui m'aide à voir les choses. Et là, on retourne sur terre. Et ça se fait ce mouvement-là trois fois à travers les trois séquences de jugement qui se passent progressivement pendant cette période de jugement sur terre pour terminer avec les derniers chapitres qui donnent le retour du Seigneur, etc. Donc, on est au tout début de ce mouvement-là. Et donc, le chapitre 4-5 est primordial. Si on ne comprend pas la grandeur de Dieu-là, on ne comprendra pas les jugements sur terre. On va juste être choqué, peut-être découragé, un sentiment d'injustice, parce qu'on n'a pas la bonne perspective. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est essentiel. C'est essentiel pour notre vie chrétienne, chapitre 4-5. Et je dirais que c'est essentiel pour préparer nos cœurs à célébrer Noël. Vous allez comprendre à travers notre cheminement. Ici, on va regarder le chapitre 4, qui va parler de Dieu qui est digne d'adoration comme créateur. Et ce qu'on va regarder dans ce chapitre-ci, c'est simple. Il y a la vision du trône. Et dans cette vision du trône-là, il y a des personnages qui sont importants. Il y a un groupe de 24 anciens, 24 vieillards, et de 4 êtres vivants, des animaux qui nous sont décrits. Et là, on a leur louange ou leur interaction avec leur louange envers Dieu. Et la réaction les uns envers les autres. On va essayer de comprendre cette vision-là, de la voir, de comprendre c'est qui ces 24 vieillards-là et c'est quoi ça représente ces 24 animaux-là qui sont là autour du trône et ce qu'ils font exactement. Et j'ai même inclus une petite photo que j'ai pu trouver d'un manuscrit ancien qui date des années 300, justement, qui a les versets en question. À la toute fin là du manuscrit ici, on a justement le mot « après cela » qui est là ici avec la fin de l'autre côté qui manque. Là. Mais on a la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4, il y a 300 ans, comme le lisaient les Grecs de l'époque. Allons-y, on se lance dans la vision, à la grâce de Dieu. Alors, la vision du trône. Après cela, on dit... Après ces paroles, on rappelle ici qu'il entend une voix comme celle du chapitre 1 et il monte au ciel, il est invité à monter. Et c'est lié directement à la première vision. Fait que même si la première vision qu'on a vue est interrompue par une exhortation aux sept églises, elle se continue dans l'autre vision de la scène. Fait que donc, quand on va faire le chapitre 4-5, on va arriver au chapitre 7, il y a une suite qui se passe dans les scènes célestes. Comme sur terre, il y a aussi une suite, une séquence. Il y a toujours ces expressions qui reviennent régulièrement après cela. Après cela, Après cela, il y a une suite dans le livre. Des fois, il y a des gens qui disent ah, ça se répète. Il y a comme des cycles dans le livre. Ça devient de plus en plus intense. Le texte nous parle d'une suite dans les scènes célestes, une progression dans notre compréhension. Et sur Terre, il y a une suite dans le progression dans le temps des jugements qui vont s'exercer sur Terre pendant la période de tribulation qui vient dans le futur. Et donc, on nous dit qu'il y a une voix comme une trompette. On nous le ramène du chapitre 1. Et cette porte qui est ouverte. Et là, il nous invite à monter ici. Ensuite, il est saisi par l'esprit. Là, je veux une petite pause. Il y a des gens qui disent des fois, « Ah, tu vois, quand il est écrit ici, là, monte ici. » Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous l'avez entendu, je ne ferai même pas lever les mains. OK? Mais ça, c'est ce qu'on appelle prendre quelque chose d'un passage ailleurs et de l'imposer dans notre lecture. Le texte ne dit pas ça. OK? Mais on va parler de l'enlèvement de l'Église tantôt. Je crois que circonstanciellement, il est vrai que l'enlèvement se passe à quelque part dans ce bout-ci. Mais pas à cause de cette phrase-là, et pas là nécessairement, et c'est pas lié au fait qu'il dit « monte ici ». Il parle à Jean. C'est Jean qui invite à monter ici pour voir la scène, c'est pas l'Église, même si l'Église est invitée, elle, à voir la scène céleste. Et on va comprendre un peu plus en ayant vu tout le chapitre, pourquoi. Et je vais vous en parler à la fin de l'enlèvement brièvement. Et donc, il monte en haut et c'est par l'esprit qu'il lui permet de voir ça. Et on voit ailleurs aussi que c'est par l'esprit qu'il va voir d'autres scènes célestes. Et dans le chapitre 1, c'est la même chose. Et plus tard dans le livre également, on voit le même phénomène se passer par l'esprit qu'il va être emporté. Et ça nous rappelle évidemment Ézéchiel, chapitre 1. Et si vous voulez vraiment comprendre ce chapitre-là, après-midi, prenez le temps de lire Ézéchiel, chapitre 1, où il y a une scène similaire qui influence évidemment notre compréhension ici, et Ésaïe, chapitre 6. Ce sont des incontournables pour apprécier ce qu'on est en train de voir ici et de voir la grandeur de Dieu parce qu'ils sont clairement dans le contexte du livre. Il voit un trône dans le ciel. Ce trône est central à toute cette scène. 14 fois, on dit le trône, le trône, le trône. C'est le trône qui est au centre de tout. Il n'y a rien qui capte plus l'attention que le trône et celui qui est sur le trône dans tout le chapitre. 14 fois. Quelqu'un assis dessus, on ne nous le donne pas tout de suite, on va l'expliquer plus tard au verset 8 que c'est Dieu et c'est finalement Dieu le Père. Et là, on parle d'un aspect de pierre, de jaspe, de sardoine que j'ai mentionné, qui sont autour de lui, mais même lui a un aspect de tout ça qui est là de lui. Difficile à l'imaginer, à décrire, mais c'est ce qu'on nous explique ici. Exprimant évidemment la majesté, la grandeur de Dieu, comment il est précieux, plus que même tout ce que nous on voit comme précieux de valeur dans le monde, l'or, l'argent, les pierres précieuses. On va souvent utiliser ces images-là et on va dire souvent comme. Donc, Dieu n'est pas une pierre précieuse. Mais l'aspect, il est brillant, puis il nous émerveille comme les aspects d'une pierre qui nous émerveille. Vous comprenez? C'est important de respecter les mots qui sont utilisés où ce qu'on parle du mot semblable, du mot comme, régulièrement à travers ces images-là, pour nous donner des idées de comparaison sur Terre de ce qu'on voit au ciel et que c'est difficile d'imaginer comment qu'on décrit ça. Alors, on utilise tout ce qu'on a comme image sur Terre, comme expérience de ce qui est impressionnant pour décrire comment c'est éblouissant, comment c'est émerveillant, comment la valeur de ce que je vois est comme indescriptible. Et donc, c'est ces pierres-là qui sont utilisées pour le décrire. Et plus encore, il y a un arc-en-ciel. Alors, c'est important, l'arc-en-ciel, pour nous autres, les chrétiens, là. C'est vraiment important, là. L'arc-en-ciel est galvaudé d'un bord puis de l'autre de ce temps-ci, là, mais l'arc-en-ciel, c'est qui l'a créé? C'est qui l'a fait apparaître la première fois? C'est qui a donné son sens? C'est le Créateur. Genèse, chapitre 9. On revient tout le temps à la Genèse, hein? Tout le temps. Genèse, chapitre 9. Et là, autour de lui, il y a un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui nous rappelle une chose. On a un Dieu qui est sérieux, qui a un jugement, mais un Dieu qui tient ses promesses. Il nous fait une promesse de protection par l'arc-en-ciel, que jamais il va juger le monde encore par le déluge mondial. Et c'est une promesse de fidélité de Dieu, un rappel de sa puissance, un rappel du sérieux, de ne pas prendre Dieu au sérieux. Et donc, il y a cette image-là, mais en même temps, nous, on voit toujours des petits bouts d'arc-en-ciel, tu sais, des fois, il est interrompu, c'est jamais tout parfait. Ah, des fois, on est béni de voir un double arc-en-ciel. Vous avez déjà vu ça, des doubles arc-en-ciel, hein? C'est cool. Mais on voit jamais, des fois, on voit pas où il aboutit. Des fois, il y a des nuages qui font qu'on voit pas bien. Et là, il y a un arc-en-ciel parfait du Créateur lui-même autour de lui, avec toutes ces couleurs-là, témoignant de sa grandeur, de sa fidélité, de sa bonté envers la création. Et là, Évidemment, semblable à l'aspect d'émeraude, qui est là ici le symbole de la miséricorde de Dieu, de sa fidélité. Et on rappelle ici Ézéchiel, chapitre 1, encore une fois. Contrairement à la vue des arcs-en-ciel dont j'ai déjà mentionné, toute cette présentation montre la grandeur de Dieu et sa splendeur. Les couleurs sont symboles de ses qualités, de sa beauté. Là ensuite, cette vision-là, on a des anciens qui apparaissent. Et là ici, qui sont ces anciens? Je vous donne 5 points pour identifier qui sont ces anciens. Premièrement, on les appelle des presbytéros. Moi, je vis dans un presbytère. Vous saviez ça? Ma maison, c'est un presbytère. Et vous êtes habitué d'avoir aussi à côté des églises catholiques un presbytère. La maison de l'ancien, c'est ça que ça veut dire. Bon, je sais que je suis pas si ancien, je suis très jeune, là, et encore dans la fleur de l'âge et tout ça, là. Mais, Benoît, tu sais, quand il y avait le presbytère, ça paraissait un petit peu plus. J'ai-tu dit ça à haute voix, moi, là? Il faut bien que je le taquine, il sait que je l'aime. Mais il y a plus de cheveux gris que moi, fait que ça paraissait plus qu'il était l'ancien. Que moi, tu sais, mettons. Parce qu'ancien, évidemment, parle d'idée de sagesse, d'expérience. Et c'était le terme utilisé pour parler des anciens dans l'Église. C'était aussi, dans l'Ancien Testament, il y avait 70 anciens, un conseil d'anciens pour le peuple d'Israël. Et donc, les anciens ici étaient des gens, non seulement liés à leur âge, mais aussi la maturité de vie reconnue et utilisée aussi par l'Église, comme dans l'Ancien Testament, pour les gens qui étaient des représentants du peuple. Certains vont dire, ben, il y en a 24 pour représenter, un peu comme dans le chapitre 21, 12 pour les 12 disciples et 12 pour les 12 tribus d'Israël. 2 × 12. Mais là, quand on tombe des mathématiques dans le livre d'Apocalypse, on peut dire ben des choses avec les chiffres. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire absolument, mais une chose est certaine, il semble décrire l'Église. Et voici les raisons pourquoi, dans ce qu'on va suivre dans les prochaines diapos. Mais il semble décrire l'Église. Est-ce que ça inclut l'Église et les saints, les croyants de l'Ancien Testament? C'est tout à fait possible. Je peux pas me prononcer de manière claire, mais ça représente certainement les croyants. Et les différentes théories à ce niveau-là, dans la mesure qu'ils respectent les textes bibliques, sont tout à fait plausibles. Mais une chose est certaine, l'Église est là-dedans. Ça, c'est certain. Et voici pourquoi on mentionne que ceux qui se prosternent ont des couronnes et qui vont les donner au Seigneur. Et ça, c'est intéressant, ils ont des stéphanos, des couronnes, des lauriers de victoire. Et on l'a vu dans le chapitre précédent, chapitre 2, verset 10, chapitre 3, verset 11, pour les victorieux de l'Église est promis des stéphanos, des lauriers de victoire, des couronnes de récompense. Alors, tous les stéphanes qui écoutent, alors vous voulez, ça veut dire couronne, hein? C'est ça que ça veut dire en grec. Mais c'était pas des diadèmes de royauté, c'était des récompenses. Et le Seigneur utilise ce mot-là dans le Nouveau Testament plusieurs fois pour encourager l'Église qu'elle va avoir des couronnes, des récompenses. On peut penser, par exemple, dans 1 Corinthiens, où il parle de la couronne incorruptible, le prix de la course chrétienne. Ou la couronne de gloire, le prix de la fidélité dans le service, dans 1 Thessaloniciens et 1 Pierre. La couronne de la vie, celui qui a perdu sa vie dans l'épreuve pour le Seigneur, dans Jacques chapitre 1. Ou encore Timothée, Paul en parle à Timothée dans le chapitre 4 de 2 Timothée. La couronne de justice, le prix de celui qui combat dans la foi, avec foi. Et ces vieillards portent des vêtements, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de tout ce qui a été promis aux croyants dans chapitre 2 et 3. Cette vision est donc pour eux un encouragement. Imaginez l'Église là, d'Éphèse, l'Église de Laodicée qui vient de lire les exhortations, les corrections. Et là, ils voient une scène céleste avec les croyants dans l'avenir, avec Dieu, qui ont leur récompense, dont il vient de parler au chapitre 2 puis au chapitre 3. Ce sont des réelles récompenses qu'ils vont pouvoir apporter devant Dieu. Imaginez pour eux l'encouragement, imaginez pour nous l'encouragement à qui Dieu a promis ses couronnes. Il y a une scène où ce que les croyants sont là, il y a des représentants des croyants en tout cas, certainement, avec ses couronnes déjà récompensées, donc dans l'avenir, avec ses couronnes d'encouragement pour la fidélité avec Dieu. Donc, ils ne semblent pas être des êtres angéliques, car ces couronnes sont des récompenses qui ont été promises à des croyants, à l'Église, pas à des anges. Dans les Écritures. De plus, On parle aussi qu'ils avaient qu'il y a un manuscrit dans le chapitre 5 où ce qu'on parle des 25 anciens, il y a des manuscrits, vous savez, où ce que des fois il y a des petites variantes. Il y a un mot différent, puis là il y en a 50 qui ont tel mot, puis l'autre ont tel mot, puis là il y en a plus de ce côté-là, fait qu'on garde celui-là, puis on enlève celui-là ici. Et c'est souvent des petits mots ici et là qui changent pas la doctrine biblique, qui changent pas rien d'important dans la Bible. Et il y en a un qui mentionne avec plusieurs autres anciens que le mot nous dans le chapitre 5, lorsqu'il parle des 25, il y a aussi « nous a rachetés ». Donc, les rachetés, c'est l'Église. Et ça, c'est un autre argument en faveur de cela, dans les variantes de ces textes-là, où ce mot-là est là, possiblement à l'origine ou pas, mais donne l'impression d'être lié à l'Église également. En plus, ils sont revêtus d'un vêtement blanc, chose qui était promise à l'Église aussi dans les chapitres précédents. Un vêtement blanc, symbole de pardon, évidemment, d'avoir été lavé par le sang de l'agneau. C'est pas les anges qui ont ça. C'est l'Église. Tout porte à croire qu'on a vraiment ici l'Église. Une image qui aussi a été de Zacharie, chapitre 3. Vous pouvez lire le chapitre 3 de Zacharie en particulier. Cette vision-là a beaucoup d'incidence aussi dans l'interprétation de l'Apocalypse. Tout semble tourner dans notre lecture vers le trône et devant le trône et ce qui se passe autour du trône. Et en plus, avant de regarder la dernière... Devant le trône se trouve comme une mer de verre. Et ce langage-là est difficile à imaginer. C'est quoi ça représente, cette mer de verre? Il y en a qui vont dire, ah, mais les Juifs connaissaient pas la glace, peut-être. Puis là, c'était comme de la glace, une manière de parler d'une mer glacée. Là, tu sais, là, j'y avais déjà vu du glaçage, là, de l'eau glacée. Il y avait déjà vu ça, là, les Juifs, là, en même temps. Là, fait que je trouve ça léger, là. Mais c'est évident que le langage ici, pour imaginer cette mer de cristal, donc on parle de quelque chose de vaste, est un langage imagé qui se ressemble beaucoup à celle de la vision d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 22. Et je vous lis le verset 22 du chapitre d'Ézéchiel, chapitre 1. « Au-dessus de la tête des êtres vivants, les mêmes êtres vivants qu'on décrit ici, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. » Et c'était impressionnant, ou en fait, littéralement, en hébreu, on dit « c'était digne de crainte ». Donc, on parle de quelque chose qui est très vaste, qui est impressionnant, et qui dit que celui qui est là mérite le respect par le côté vaste et immense de l'espace qui est là. C'est ce que je retiens d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 22. Ce côté digne de crainte, ce côté vaste m'inspire au respect devant Dieu. Voilà l'étendue qu'il y avait au-dessus de leur tête, nous dit Ézéchiel. Et là, il y a différentes gens qui ont différentes théories là-dessus, mais je m'en tiens qu'à cela. Parce que sinon, on peut spéculer sur des choses qui ne sont pas tous expliquées. Ensuite, leur action aussi et leur chant témoignent en faveur du fait que c'est l'Église, puisqu'ils témoignent de ces gens en ce sens également, par leur réponse qu'ils ont aux paroles du verset 8 et 9 que les quatre êtres vont donner. Il y a une réponse des anciens à la toute fin, et je vais vous la lire juste ici, en toute simplicité. Les 24 vieillards, versets 10 et 11, tombèrent devant celui qui est sur le trône. On ne l'a pas lu tantôt, alors regardez-le attentivement. Versets 10 et 11, les 24 vieillards tombèrent après avoir entendu les paroles des êtres qui ont parlé au verset 8 et 9. Et ils se prosternèrent. On a déjà une première invitation ici, là. La réaction est de tomber à genoux, le nez à terre, prosterné, soumission, adoration, devant le vivant. Donc, on l'identifie ici, c'est le vivant pour les siècles des siècles. Jésus aussi était identifié comme ça, mais il y a une distinction qui est faite avec l'agneau ici. Fait que donc, on sait que c'est le Père, mais Dieu est loué de la même façon que Jésus est loué dans le chapitre 1 aussi. Celui qui est vivant au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône. C'est un geste qui n'est pas banal ici. Ils jettent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de prendre la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses. Et par ta volonté, elles existent et elles furent créées. » La raison de cette adoration-là ici et de la dignité de Dieu, c'est celle d'être créateur. Et que tout passe par lui et pour lui. Je ne suis pas au centre de la création comme créature. Le créateur l'est. C'est lui le centre d'attention. C'est lui la raison d'être, pas moi. Je ne suis que le sous-produit de sa volonté pour le louer, non le centre. Et là, il l'adore. Et ça me rappelle ici les paroles qu'on met ici pour le Père Céleste, pour le Créateur. On les met à Jésus, vous savez. C'est l'apôtre Paul, dans Colossiens 1. Vous pouvez écrire juste à côté, dans la marge, peut-être, de votre Bible. Colossiens 1, versets 16 et 17. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, en parlant de Jésus, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, les autorités au pluriel, tout a été créé par lui et pour lui. On dit de Jésus la même chose, selon Paul. Il existe avant toute chose et tout subsiste, donc continue de vivre en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. En parlant de Jésus, qui est le corps de Christ, l'Église. Il est à l'origine de la création, au même titre que le Père Céleste. Parce que tout, et on va dire la même chose de l'Esprit Saint aussi, toute la personne de Dieu était là, dans la création et dans la raison d'être de la création, au complet. Cette humilité de tomber à terre, d'adorer, est la réaction qu'eux, aussi que Jean, ont de la vision dans le chapitre 1. Jean, au chapitre 1, verset 17, tombe à genoux. Il reconnaît la grandeur et la valeur de celui qui est adoré, Dieu le Créateur. Cette affirmation de la dignité du Créateur sera suivie de la recherche correspondante au chapitre suivant de celui qui est digne comme rédempteur. On va en parler au chapitre suivant. Il y a un Créateur, mais qui est le rédempteur de cette création perdue, déchue? On va en parler dans un deuxième sermon. Et qu'on ne trouve pas, finalement et qu'on va trouver par la suite. La volonté de Dieu est la cause de la création. Et il en est le Créateur. Ce geste d'honneur en disant « Tu es digne, tu le mérites ». En laissant les couronnes devant le trône, se veut une reconnaissance qui est attribuable à leur réussite ou leur récompense, lui redonnant le mérite. Et là, je m'arrête pour réfléchir. Il est en train de dire que contrairement à toute notion terrestre, où ce qu'on se vante de nos accomplissements, où ce qu'on cherche une valeur dans ce que l'on fait comme travail, dans ce que l'on a comme avoir, dans ce qu'on a comme reconnaissance des gens, dans ce qu'on a comme famille. On cherche toujours une valeur, une reconnaissance. Toutes ces notions-là que le Seigneur nous donne de récompense sont ici amenées avec une nuance totalement nouvelle pour nous, humains. On va les prendre et on va dire, « Hey Seigneur, c'était pas vraiment moi. » C'est toi, tiens, c'est pour toi, Seigneur. Tout ce que j'aurai reçu comme récompense sera le fruit de ce que Dieu a fait en moi. Sera le fruit de ce que Dieu a transformé et a bien voulu d'un pécheur comme moi et de me donner l'Esprit Saint pour me transformer, pour être capable de faire quelque chose qui va passer le jugement du feu, et que l'œuvre que j'aurai fait va continuer parce qu'elle n'aurait pas été faite pour moi, mais pour lui, sincèrement, par la transformation de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Et tout à coup, tout ce que j'ai comme récompense, tout ce que j'ai comme méritoire, va être comme, non, non, c'est à toi, Seigneur, que revient toute gloire, toute fierté, toute célébration de ce que j'ai pu faire de bon sur terre. À toi l'honneur. Tout ce que j'ai comme pour honorer Dieu seront ces récompenses-là qu'on va jeter comme un grand coureur à l'époque de César qui avait le laurier et qui venait au pied de César et disait « À toi la gloire, César. Je ne le mérite pas, c'était pour toi que je l'ai faite. » Mais là ici, à un autre niveau. Parce que César, c'est pas vrai qu'il méritait ça. Ça, c'était du show. Il n'y avait rien mérité dans la course de ce gars-là. Mais ta course, ma course, s'il y a quelque chose de bon qui se fait dans notre course, c'est à cause de lui. C'est lui qui est passé avec nous. C'est lui qui nous change. C'est lui qui fait des choses en nous qu'on ne peut pas expliquer, qui nous donne la force, la patience, qui nous a donné les paroles au bon moment, qui nous a donné l'endurance, qui a fait tout ça et que là, tout à coup, on peut dire, c'est tout à toi, Seigneur. Ça, là, c'est important qu'on l'enregistre, les amis. Ça vient tout travailler sur le pourquoi que je fais ce que je fais. Et est-ce que vraiment je le fais pour lui, avec lui, par lui, en lui, et toutes les lui que vous voulez. J'en manque. C'est toute une différence dans nos vies, sur nos motivations. Et vous savez, malgré qu'on peut être des bons acteurs, notre motivation, elle sort toujours à quelque part. On se fait toujours trahir un petit peu par ce qui nous pousse, par une petite vantardise, un petit quelque chose glissé là. Il y a toujours quelque chose qui nous trahit lorsque ce n'est pas d'un cœur sincère, mais qu'il y a du moi là-dedans. Et c'est dur là, de partir. Et vous savez quoi? Je suis reconnaissant que le Seigneur, il est patient envers moi. Pour toutes les œuvres que je fais qui sont mélangées de mon moi dedans. C'est décourageant quand j'y pense. Mais quand j'arrête d'y penser, puis je regarde sur comment il est gracieux, qu'il lui accepte de travailler avec du moi dedans, puis qu'il se mélange, puis que je demande pardon, je suis encouragé. Parce que mon Père Céleste ne s'arrête pas à ça. Vous voyez? Puis il ne s'amuse pas à tout départir ça. Il sait, il y aura un jugement. Puis il travaille avec moi malgré tout. Et il me lâche pas quand que moi je l'ai lâché puis que j'ai fait les choses avec des mauvais motifs. Il continue de travailler avec moi. Comme on continue de travailler avec nos enfants et qu'on voit des choses, on continue. Des fois on chiale, oui, mais on continue vers la maturité. Découragez-vous pas. Décourageons-nous pas, les amis. Et là, je saute quelques pages pour aller vers une autre étape. Et là, je vous amène vers un diagramme, OK? Et c'est un monsieur, c'est monsieur Hendrickson qui a un petit livre en français qui date des années 60, mais qui a été traduit en 87 en français. Il y a beaucoup de bien dans ce livre-là. Je suis pas toujours d'accord avec les interprétations de monsieur Hendrickson, mais son livre est quand même un livre en français qui vaut la peine d'être lu à bien des égards. Et il a mis un diagramme que, il est en anglais, fait que le F, c'est pour father, c'est pour père, le L, c'est pour l'agneau. Alors, lamb. Et vous avez un peu une image à quoi pourraient ressembler les cercles de gloire qu'il y a et de présence autour du trône. Donc, vous avez le trône, et dans les trois premiers éléments, c'est là qu'on retrouve la splendeur comme un émeraude, cristalline, l'arc-en-ciel, le troisième. Alors, comme si c'était autour de lui, comme resplendissant. Et là, à la quatrième étape, autour, vient ces quatre êtres vivants qu'on va regarder à l'instant. Donc, ils sont autour du trône, aux quatre côtés. Et qui, on va regarder l'interprétation ou le sens de cela. Ensuite, vient les 24 sièges autour du trône, vous voyez, qui entourent. On ne connaît pas la proximité. Et en plus de cela, dans le chapitre 5, au verset 11 et à la fin, verset 13, on apprend aussi qu'une multitude d'anges, qu'on met ici au sixième, autour aussi du trône. Et on parle aussi de toutes les autres créatures de l'univers qui sont là aussi, septième cercle autour. Alors, il y a toute une multitude et au centre est vraiment Dieu Tout-Puissant. Et là, on voit aussi le chandelier et les sept esprits. C'est vrai, mais j'ai passé vite fait tantôt, mais je le mentionne là ici, où ce qu'on parle des sept esprits ou des sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu. Je l'ai mentionné au chapitre 1. Mais c'est une image qui est utilisée dans le chapitre 1 et dans l'Ancien Testament comme dans l'Apocalypse pour parler de la plénitude de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint au complet est là. Et c'est une image pour parler de cette perfection de l'Esprit Saint. Et donc, on a l'image de ce chandelier qui sont les sept esprits qui est devant le trône, que vous voyez le petit chandelier ici, le menorah juif. Et on a l'agneau qui est en périphérie, que lui, on va le voir dans deux semaines au chapitre 5. Il est là, mais il n'est pas mentionné pour l'instant. Il va être mentionné au chapitre 5 dans cette scène-là. Et on va comprendre c'est quoi son rôle dans cette scène céleste-là, qui a un rôle clé, qui va faire toute la différence et amener la deuxième regroupement de louanges dans le chapitre 5. Pour l'instant, notre louange est celle qu'on vient de lire de Dieu comme créateur. Donc, juste pour vous donner une image de ce qui se passe là, bien imparfait, mais qui peut peut-être aider certains à s'identifier avec la grandeur de l'image qu'on a là. Des fois, les images nous aident, en espérant que ça aide certains pour la scène céleste qu'on est en train de décrire. Les quatre êtres vivants. Et là, on nous parle, donc, à partir du verset 6, de ces quatre êtres vivants. Évidemment, pour comprendre les quatre êtres vivants, il faut aller dans Ézéchiel. Je ne vous lirai pas le texte d'Ézéchiel, vous allez devoir faire vos devoirs vous-même, mais dans le chapitre 1 d'Ézéchiel et le chapitre 10, on voit ces mêmes quatre êtres vivants, des chérubins, clairement, qui ont un rôle de représentation de Dieu, de sa grandeur, qui sont là, mais dans son côté humain. Et par le Fils de Dieu. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'ils sont couverts de yeux. Ça, c'est renversant, cette idée-là de plein d'ailes qui sont couverts de yeux. Eux sont remplis de yeux. Et dans la vision d'Ézéchiel, justement, il y avait des roues remplies de yeux. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Et évidemment, ces visions-là sont des visions qui donnent une image, qui veut nous représenter quelque chose dans la gloire de Dieu. C'est pas que Dieu a vraiment plein Dieu, hein, ou que ces anges ont nécessairement plein Dieu. Mais sur cette image-là, il veut représenter le fait que ces anges-là, comme ceux et comme l'image dans Ézéchiel chapitre 1, il est en train de nous dire que le Créateur sait tout. Il voit tout. Ses yeux sont partout par ses anges et il est lui-même au courant de tout ce qui se passe. Et le mot « voir » dans le livre d'Ézéchiel est un mot clé qui nous aide à comprendre ici que Dieu voit tout, il sait tout. Il est omniscient, il sait tout. Et omniprésent, partout présent. Et donc, tout compétent pour savoir ce qui se passe sur terre et ce que mérite la terre ou qu'elle ne mérite pas. Il voit tout le bien et il voit tout le mal. Rien n'échappe au regard du Créateur. Et ses yeux représentent ce regard parfait qui connaît tout, dont rien n'échappe, pas juste à l'apparence humaine de nos actions. Non. Tout. Même ce qu'on pense, qu'on rêve, qu'on aspire, il voit tout sans exception. Et donc, vraiment important, cette nuance des yeux, qui parle évidemment de sa capacité de tout voir, et que Ézéchiel souligne, vous pouvez écrire Ézéchiel chapitre 1, verset 18, et le chapitre 10, verset 12, si vous prenez des notes. Ézéchiel 1, 18 et 10, 12 à ce sujet-là, si vous voulez approfondir ces éléments. Donc, l'aspect ici, c'est les quatre êtres vivants d'Ézéchiel qui ressemblent à être qui sont identifiés comme des chérubins au chapitre 10 d'Ézéchiel. Et ils symbolisent la sainte présence, inaccessibilité de Dieu et représentent aussi les quatre facettes de Dieu qui se révèlent à l'être humain. Et c'est un auteur que j'apprécie, M. Ryrie, qui disait « Il serait difficile d'ignorer la similitude entre les quatre êtres vivants qui sont mentionnés ici » et la manière dont Christ est représenté dans les quatre évangiles, quatre facettes de la personne de Dieu. Je dois le souligner ici en toute simplicité. Le premier à droite, il y avait l'image semblable à un lion, symbole évidemment de royauté, comme Matthieu le présente le Seigneur Jésus-Christ, comme le roi auprès des Juifs. Voici, le Messie vient et ce Messie, il est roi. Ensuite, on parle aussi de l'image de bœuf. C'est intéressant dans l'évangile, selon Marc, on présente Christ comme le serviteur parfait. Et le bœuf est utilisé évidemment comme sacrifice, n'est-ce pas? Docile à servir, à travailler les terres et offrir de son corps pour le travail et même en sacrifice. Et c'est ce que Marc fait. On souligne cette qualité-là du Seigneur de serviteur. Et chapitre 10 de Marc, verset 45, en est un vraiment bon exemple. Je suis pas venu pour servir, vous vous rappelez? Mais pour servir de rançon pour beaucoup. Ensuite, cette image d'homme, d'humanité, ayant une face comme d'un humain. Il est venu sur terre, il a pris un corps humain. Il a vécu en toute humanité ce que nous on vit. Il s'est abaissé, lui parfait, à prendre un corps humain des humains qui l'ont rejeté, à devenir pour nous comme un frère, pour prendre nos fautes alors que lui avait rien fait. Il s'est abaissé à venir parmi nous, Dieu créateur, parmi sa créature, et de subir notre jugement envers lui, notre rejet, notre méchanceté, et de prendre finalement nos fautes à notre place. Et Luc le présente comme ça, l'homme parfait. Et finalement, une dernière image, celle d'aigle qui s'envole vers le ciel, un symbole de la divinité, l'aigle. Ça fait même partie des constellations, encore des 48 constellations qu'il y a dans le ciel. Symbole de divinité que Jean présente, qui présente évidemment le Fils de Dieu comme étant Dieu lui-même. C'est intéressant, il y a une correspondance qui présente ces quatre facettes que les anges représentent de la personne de Dieu, de ces quatre chérubins. Comme dans Ézéchiel, les quatre visages de chaque côté démontrent les quatre facettes de Dieu et du Messie, qu'on ne peut rien faire dans le dos de Dieu. de ces anges qui ont les yeux tout autour. Rien ne lui échappe. Et ça devrait, à chacun de nous, nous garder vigilants. Peut-être ton mari, ta femme ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Peut-être ton employeur ne te voit pas. Mais Dieu te voit. C'est beaucoup plus important. C'est pas pour rien qu'il va dire, Paul, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Peut-être tes enfants ne voient pas ce que tu fais. Mais Dieu le voit. Peu importe la sphère de notre vie. Dieu le voit. Et ça nous inspire une sainte crainte et respect de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas vivre en hypocrite. J'ai besoin de toi que ma vie privée soit un reflet de ma vie publique. Que je ne sois pas en train de garder. J'avais une conversation avec les enfants dans l'auto ce matin sur cette importance-là de transparence. Avec les enfants, tu sais, tous les enfants ont des comptes. Puis les comptes qui ont Léo à des comptes pour enfants, ben je suis en conjoint avec eux autres. Fait que tout ce qui se passe dans leur compte, je le vois. Mais j'expliquais à mes enfants, je disais, mais papa, il fait la même chose que maman. Maman, elle voit tout ce que je dépense, puis papa, il voit tout ce que maman dépense. On veut vivre dans la transparence. Et on veut pas se laisser une sphère dans laquelle on se garde caché un domaine de nos vies. Peut-être une réflexion pour certains couples qui ont des choses cachées ici, là. Je suis bien sérieux. C'est comme ça qu'on commence des sphères cachées. Et qu'il y a des valises à la porte un jour. De vivre dans la transparence, les amis. Si je le fais pas dans mon couple, je le ferai pas avec Dieu, tu sais. Honnêtement. Parce que je suis mon pire ennemi. Je suis mon pire ennemi. Et je veux me protéger de moi-même. Et de mettre des balises autour de moi pour m'obliger à vivre dans la transparence, d'être redevable de ce que je fais, de ce que je décide, de ce que je vis. Est une manière de me protéger de moi-même. Dans nos couples, dans nos familles. Et on en parlait, nous autres, dans le cas d'un compte, puis il dit, si tu fais une dépense, ben, papa va le voir en passant, tu sais. On fait des budgets ensemble, puis etc. Pour l'importance de le vivre dans la transparence, redevable les uns aux autres, ne voulant pas laisser de la place à l'ennemi et à notre chair. C'est tellement important, et ses yeux partout nous invitent à cette vigilance et à vraiment prendre cela au sérieux. J'aurais des choses à dire encore, mais vous pourrez lire dans mes notes et toujours avancer pour respecter le temps et nous amener à l'atterrissage qui est tellement primordial dans quelques instants. Donc, les aspects, on les a vus maintenant. Et là, leur adoration, qui évidemment ressemble à Isaïe chapitre 6, Saint, le Sanctus, qu'on appelle en latin. Le Saint est le Seigneur. On le chante dans beaucoup de nos chants, hein, pour parler de sa perfection. Triple, une allusion peut-être, justement, aux trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, possiblement, oui. Saint est le Seigneur, qui mérite toute notre adoration. Et il y a une invitation par les chérubins de se soumettre et à ce Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. Et chaque fois, les animaux donnent gloire et honneur et action de grâce, donc remerciement aussi à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est vivant pour les siècles des siècles. Notre langage humain pour dire qu'il vit tout le temps. Nous autres, d'un siècle à l'autre, on change. On meurt. Pas lui. Il demeure d'un siècle à l'autre. Parce qu'en fait, il a créé les siècles. Lui n'est pas assujetti au siècle. Nous le sommes. Avant d'aller vers la conclusion, je veux nous aller vers des questions que les gens posent souvent. Pourquoi est-ce que notre Église, ainsi que la plupart des Églises, en fait, évangélique dans la région avec laquelle on fraternise, partage cette conviction, pas absolue, mais on croit que la Bible enseigne qu'on devrait être enlevé avant la tribulation. C'est ce qu'on comprend ou qu'on déduit de nos lectures des Saintes Écritures. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Et je vous donne ici quatre raisons principales. Il y a un livre que j'ai qui en donne 50, là, mais... ils n'ont pas toutes la même valeur, mettons. Jésus n'utiliserait pas toutes les 50 et certains sont des sous-points, des points principaux. Je vous en donne les quatre qui, à mon sens, sont les plus importants. Il y en a d'autres, mais ceux pour lesquels me convainquent le plus sur pourquoi notre Église croit à l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, non au milieu, ce qu'on appelle des prémilles pré-tribes, donc un enlèvement avant la tribulation. Il y a des gens qui sont des mid-tribes au milieu de la tribulation, des gens qui croient à la fin de la tribulation ou avant la colère. Il y a toutes sortes de positions. Mais pour la majorité autour, c'est ce qu'on croit. Et je vous donne ici les raisons principales. La première, c'est que l'Église a été promis d'être exemptée de la colère de Dieu. Dans Thessaloniciens, deux fois, il est mentionné qu'on va être exempté de la colère de Dieu. Et vous savez, on a été pardonné. Et celui qui est pardonné, dont les péchés ont été effacés par Jésus-Christ, est exempté de la colère de Dieu. Et on parle de ce qui va se passer dans l'Apocalypse comme l'expression de la colère de Dieu sur la terre. De plus, on a lu dans la semaine, il y a deux semaines, pour l'église de Philadelphie, dont il y avait une porte ouverte, qu'elle serait exemptée du jour ou de l'épreuve, la grande épreuve. Et c'est utilisé au singulier, et il l'utilise pour dire, on va être préservé de cela. Et vraiment, il y a une allusion ici qui, contextuellement, parle de la grande tribulation pour notre part. On le croit assez clairement que c'est le contexte et qui parle de l'Église qui va être enlevée de cette période de temps. Donc, lorsque Paul parle de l'enlèvement de l'Église, on comprend pour nous que cet enlèvement-là se fait au début de la tribulation avant que commence ces 7 années de jugement sur la terre parce qu'ils ne sont pas adressés pour l'Église, mais pour le monde. Pourquoi je dis ça? Bien, la deuxième raison, la nature de la tribulation. Et il y a deux événements importants qui définissent la tribulation. De un, c'est pour Israël. Si on étudie le livre de Daniel, dans le plan que Dieu a mis pour Israël, il y a 70 semaines qui sont données dans la vision du chapitre 9. Je vous l'expliquerai pas tout, je vous le mentionne et vous pourrez approfondir la chose, mais il y a 70 semaines et on est présentement entre la 69e et 70e semaine, il y a une période de temps avant que se passent ces 7 dernières années de jugement qui sont pour Daniel, pour Jérusalem et pour son peuple. C'est ce que Daniel, chapitre 9, verset 24, nous spécifie. Et il donne tout ce qui va se passer lié à ces semaines-là. Et donc, il y a un plan que Dieu a pour Israël. Et on lit dans Zacharie puis dans Romains ceci. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, en parlant dans l'avenir. » Et Romains va dire « Tout Israël sera sauvé. » Pas toutes dans le sens de toutes, mais une grande partie d'Israël qu'on va voir dans le livre d'Apocalypse va se tourner vers le Seigneur. Ils vont être persécutés par l'Antichrist dans la période de tribulation. Un grand nombre vont se convertir et même il y a un nombre de mis, on va en reparler. Il y a un plan ici lié à Israël. Mais il y a une deuxième chose, c'est que le texte aussi qu'on a lu il y a deux semaines dans le chapitre 3, verset 10, parle aussi d'une épreuve pour ceux qui habitent la terre. C'est pas pour l'Église. C'est pour ceux qui habitent la terre, qui ont rejeté le Seigneur et dont la phrase est répétée au chapitre 6, chapitre 8, chapitre 11, chapitre 13. Les gens visés, ce n'est pas l'Église qui n'est pas mentionnée après ça. Ce sont les gens de la terre qui ont rejeté et dont on mentionne au chapitre 15 et au chapitre 9 qu'ils sont invités à se convertir. Ils se sont pas convertis et ils veulent pas se convertir de leurs mensonges, de leur impureté sexuelle, de leur vol, etc. Ils veulent tenir tête même dans l'acharnement de jugement qu'il va y avoir sur eux. Ils vont tenir tête à Dieu et rejeter. C'est pour le monde leur donner une deuxième chance, une dernière chance ultime que le Seigneur apporte ce jugement-là. L'Église n'est pas en vue dans ce jugement-là. Vous comprenez? Et c'est le deuxième point. Le troisième, c'est l'imminence. Si l'Église n'est pas enlevée au début, mais tout à coup, l'imminence, ça veut dire n'importe quand le Seigneur peut revenir, est enlevé. Parce que là, tout à coup, on peut lire l'Apocalypse et dire, ah, si c'est au milieu, ben OK, ça s'en vient, on peut le prévoir parce que finalement, c'est plus imminent. On sait que c'est au milieu ou à la fin. Le côté imminence du retour du Seigneur, n'importe quand, comme un voleur dans la nuit, qu'on est averti d'être prêt pour, est enlevé si on n'est pas au début et que ça fait quelque part dans la suite de l'Apocalypse, situé à un endroit précis. Et ça, c'est vraiment important dans notre théologie chrétienne, cet aspect de l'imminence du retour du Seigneur. Et finalement, ben, le fait bien pratique et simple, qu'après le chapitre 3, on voit plus l'Église dans le livre. L'Église n'est plus présente. Elle est mentionnée au chapitre 2 et 3, où ce qu'on parle à une Église, mais après ça, l'Église n'est plus mentionnée. Mais, on voit les croyants de l'Église au ciel. Avec leur récompense déjà au début de la tribulation, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, chapitre 4, ils sont déjà là en train de louanger Dieu et ils ont déjà reçu leur récompense. Parce que la tribulation s'adresse pas à eux. Mais Dieu merci, dans cette tribulation, vous allez voir des conversions, les amis. Vous allez voir des gens qui vont être martyrs pour le Seigneur, qui vont se convertir et répondre à cette dernière appel que le Seigneur va donner. Et on va voir à travers, qui vont passer même au bûcher littéralement. Martyrs pour le Seigneur, des Juifs et des païens, on va le voir dans le livre, parce que le cœur du Seigneur n'a pas changé dans l'Apocalypse. C'est la repentance humaine, de ramener ceux qui lui appartiennent vers lui. Son cœur gracieux, son cœur pardonnant, le pécheur qui demande pardon est toujours présent tout au long du jugement. Parce que c'est ça son désir, ramener sa création vers lui. Mais l'Église est plus présente, elle est au ciel. Et voilà les raisons principales pourquoi on croit à l'enlèvement avant la tribulation. Maintenant, je vais terminer avec une piste de réflexion. Puis après tout ce que j'ai dit, là, ce qui me tient le plus à cœur, c'est ce qu'on va lire ici, OK? Puis ce que je vais vous partager en terminant. Donnez-moi juste 4 minutes. Et je vous invite à réfléchir à ça ici. Parce que la louange de ce chapitre-là est liée à Dieu comme créateur, OK? Tout le sens de la dignité de Dieu ici, qui mérite d'être prosterné devant, c'est le fait qu'il est créateur. Mais s'il est créateur, pourquoi c'est si important de reconnaître Dieu comme créateur? C'est la question qu'on doit se poser, si ça nous invite à une telle soumission. Et je vous ai mis ici les raisons pratiques pour nos vies, pourquoi reconnaître Dieu comme créateur est tellement important. OK? Premièrement, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et naturellement, le peuple céleste de Dieu devrait se joindre à cette chorale. Toute la création témoigne. La création témoigne constamment de la puissance, de la sagesse et de la gloire de Dieu. Et donc, de reconnaître le Créateur. Et le premier pas vers la foi dans le Rédempteur. Si vous ne croyez pas dans un Créateur à qui vous devrez voir régler des comptes et répondre de votre vie, il n'y a aucun besoin d'un Rédempteur, quelqu'un pour vous racheter de vos péchés. Vous me suivez? C'est vraiment important. Et toute personne qui s'est convertie ici, à un moment donné, est venue à la réalisation, j'ai un Créateur à qui j'ai des comptes à rendre. Et ça commence par ça, pour voir le problème que j'ai dans ma vie, pour avoir besoin d'un Rédempteur. Et parce que j'ai des comptes à rendre, puis je réalise que je vis pas parfaitement, que je fais des erreurs, que je pêche, que je mens, peu importe le nombre de fois, et que je suis dans une situation avec le Créateur de tension, et que je peux pas le régler moi-même, là j'ai un besoin de Jésus. Mais jusque-là, j'ai pas besoin de Jésus. Je m'arrange tout seul s'il n'y a pas de Créateur. C'est pourquoi les gens croient à l'athéisme. Parce que dans l'athéisme, on se débarrasse d'un Dieu Créateur. Ça fait-tu bien notre affaire, ça? Pas de compte à rendre, je fais ce que je veux. Mais là, tout à coup, c'est qui est sur le trône? C'est moi le boss. C'est moi le boss. Oh, mais je crois qu'il y a un Dieu, mais je vis la vie à ma manière. Ben là, t'es encore plus niaiseux. Je suis désolé, mais c'est ça qu'il faut appeler ça. C'est niaiseux. C'est un raisonnement de folie. Je reconnais qu'un créateur, ça veut dire que s'il y a un créateur, je dois répondre à lui un jour. Il y a quelqu'un qui a une vérité empirique absolue à qui on va devoir rendre des comptes. Vivre à ma manière en reconnaissant qu'il y a un créateur, c'est de la folie, les amis, pensez-y, là. Je vais rendre des comptes, mais je sais pas comment rendre des comptes, puis je veux pas savoir comment rendre des comptes, puis je vais vivre ma vie comme je veux. Ça, les amis, c'est de la folie. Notre destinée passe par là. Tu peux pas te foutre du Créateur s'il y a un Créateur, les amis. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire devant lui sinon? Et là, ici, comme Église, qui avons répondu à ce Créateur-là, il y a une reconnaissance, il dit, hey, si eux qui sont là sont en train de le faire, moi qui y crois, je devrais juste me joindre à eux dans une adoration de ce Créateur et de reconnaître l'importance de ce fait. Jean nous dit ceci, ce qui est encore plus bouleversant, c'est le Créateur, Dieu, qui a entrepris une démarche de réconciliation avec sa création afin que nous puissions voir notre... Excuse-moi. Afin que nous puissions voir notre besoin de lui et de comprendre sa démarche sur la terre. Et c'est Jean qui nous dit ceci. Au début de Jean, il dit au commencement, la parole, en parlant de Jésus, existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, elle a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière des êtres humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La bonne nouvelle, c'est qu'à cause qu'il y a un Créateur et qu'il nous aime vraiment, il s'est occupé de trouver un moyen de faire un chemin qui peut nous ramener à lui, alors qu'on s'est égaré de lui. Et ça, c'est tellement important. Le Créateur est descendu et a trouvé un chemin pour faire cela en se respectant. Sa sainteté, sa perfection, sa justice et dans l'amour. Seul le Créateur pouvait fabriquer un chemin de retour pour la créature. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et donc, c'est vraiment important cette notion de Créateur, parce que ce Créateur est celui qui fait le chemin du retour de l'être humain. Troisièmement, Dieu est digne de recevoir notre dévouement immédiat. Il est notre Créateur, il est digne de recevoir notre adoration, même les anges en témoignent. Parce qu'ils vont en reparler de l'aspect du Dieu Créateur dans le chapitre 10, dans le chapitre 14, comme raison pourquoi on doit se soumettre à lui. Pourquoi attendre de le voir dans les cieux? L'Apocalypse nous donne un échantillon des cieux afin que nous puissions, évidemment, avoir nos âmes attirées vers lui maintenant. Donc, cette scène du Créateur est déjà en train de nous attirer vers lui. Mais une autre application, et je remercie M. Warren Wiersbe pour cette réflexion que je vous lis sous cette diapo et la prochaine en terminant. Je vais inviter l'équipe de s'approcher, s'il vous plaît, pour la louange. Mais l'homme pécheur adore et sert le Créateur, la créature plutôt que le Créateur, ce qui constitue une idolâtrie. Et c'est la première chose que Paul va dire dans son livre, parce qu'on a rejeté le Créateur, regardez le comportement de l'être humain, c'est la folie. Et qu'on le croit au Créateur ou qu'on y croit pas, si on s'y soumet pas, c'est la même chose. Et la vie, où ce qu'on reconnaît pas à Dieu la place, c'est une vie de folie qui en suit, et c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui prennent la place de Dieu. De plus, l'homme pécheur a pollué et détruit la merveilleuse création de Dieu. Et il va payer pour cela, nous dit dans l'Apocalypse chapitre 11. La création existe pour plaire à Dieu, et l'homme n'a aucun droit d'usurper ce qui appartient légitimement à Dieu. L'homme a plongé la création dans le péché, de sorte que la bonne création de Dieu est aujourd'hui une création qui gémit, qui crie de douleur parce qu'on ne l'a pas bien traité. On ne s'est pas occupé, comme Dieu nous demandait dans le Jardin d'Éden, de prendre soin de cette terre qui nous a conviés. Elle gémit, et on la voit gémir aujourd'hui. Mais grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, elle sera un jour délivrée et deviendra une création glorieuse. Et donc, il y a une implication de notre manière d'interagir avec la création. Il est regrettable que l'Église aujourd'hui néglige souvent d'adorer le Dieu de la création. La véritable réponse aux problèmes écologiques même, les amis, n'est pas les finances ou le juridique ou des grands sommets dans le monde avec des dirigeants hypocrites qui veulent faire à croire qu'ils vont prendre des décisions économiques et des décisions de descendre tel pourcentage de pollution et tout le reste, alors qu'il y a des agendas cachés derrière. Non, c'est spirituellement que ça va se régler, ça, le problème de l'écologie. C'est pas matériellement, c'est par le cœur humain, parce que c'est comme ça qu'il se brise. C'est toute l'image du pelletage de nuages qu'on voit. Ce n'est que lorsque l'homme reconnaîtra le Créateur et commencera à utiliser la création à la gloire de Dieu que le problème sera résolu. Mais vous savez ce qui va arriver? Ça n'arrivera pas. Désolé de vous le dire. La Bible nous le dit, l'être humain va continuer. Et on nous l'annonce. Et il est invité à la repentance, il le fera pas. Et on s'en va vers cette déchéance d'un jugement de Dieu. Parce qu'on veut changer les problèmes de création qui crient, qui gémit, mais pas par un changement de cœur envers le Créateur. Et ça marche pas. Les amis, ça marche pas. Comment est-ce que nous, on va répondre, les chrétiens? Qu'est-ce que le Seigneur vous dit ce matin? Je peux vous dire bien des choses. Mon PowerPoint peut vous dire bien des choses. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin à vous, personnellement, comme chrétien, devant ce Dieu créateur? Pour vous qui écoutez, qui n'êtes pas chrétien encore, qu'attendez-vous pour donner votre vie? Toi qui es ici, qui as entendu plein de sermons, mais qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'attends-tu pour y soumettre ta vie? Ce serait de la folie. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce serait de la folie de sortir de ce lieu sans savoir le nombre de jours et d'heures qui te restent et de ne pas répondre oui à genoux ce matin à Jésus. Qui sait combien d'heures qu'il lui reste ici? Qui sait combien de jours il lui reste? Quand est-ce que le Seigneur viendra? Es-tu prêt ce matin à rencontrer ton Créateur? C'est la question ultime à la fin de la journée. Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur et de devoir régler tes comptes avec lui, pas selon tes règles, selon ses règles à lui. Et Dieu merci, dans ses règles, il a pourvu un chemin. Il a pourvu un moyen par Jésus que tu n'as pas besoin de mériter, mais que tu peux recevoir par pur cadeau si tu te mets à genoux puis tu reconnais que tes pécheurs, que tu as besoin de lui et tu dis, c'est correct, Seigneur, je te demande pardon. Prends ma vie. Je veux être réconcilié avec toi. Je ne le mérite pas, mais par Jésus, c'est possible, les amis. Prions ce matin. Seigneur, c'est ta parole qu'on vient de lire ce matin. On te prie de parler à nos cœurs. Et je réalise, Seigneur, combien c'est limité de parler de ta gloire et de cette scène céleste dans les paroles, de tenter de les expliquer, d'imaginer, d'essayer de donner tout le mérite, Seigneur. Mais bien humblement, Seigneur, je te prie de prendre ce temps qu'on a ensemble et de parler à nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, de l'importance du Créateur, de la place que tu mérites dans notre vie et combien tu es incroyable. On pourrait parler de toi, Seigneur, sans arrêt, tellement que tu as fait de choses pour nous et combien tu as fait de choses tout court et combien tu es incroyable et que tu ne te compares pas. Aucun Dieu sur terre qui est décrit comme des dieux païens ne peut se comparer au Dieu de la Bible, au Dieu Créateur, au Dieu au cours, qui a le contrôle sur tout. Parce qu'aucun d'eux, Seigneur, ne trouvait un moyen de nous réconcilier. Aucun Dieu ne décrit un Dieu qui est venu sur terre parmi nous, qui a marché parmi nous, qui a été un frère pour nous, pour prendre nos fautes. Ça n'existe pas dans le monde, Seigneur. Seulement le récit biblique, le récit du seul vrai Dieu créateur qui est gardé un peu partout dans le monde, des fois dans des légendes qui ont été transformées, brisées, déchues, Seigneur. Mais qu'à l'origine, il y avait cette vraie histoire depuis le début de ce Dieu créateur qui pourvoit un chemin de retour vers lui. C'est ce que nous avons, Seigneur, comme chrétiens. Et c'est un grand privilège de le comprendre. Seigneur, si quelqu'un ce matin n'a pas encore réglé ses comptes, Seigneur, je te prie de toucher son cœur, qu'il y ait un jour de repentance maintenant et qu'il prie quelque chose comme ceci, Seigneur, je te demande pardon. Quelle arrogance de ma part de penser te tenir tête, de contrôler ma vie alors que tu m'as créé. Je te demande pardon pour mes fautes. Et je veux reconnaître que Jésus est mort pour mes fautes que je ne pouvais pas effacer. Et je veux croire en ton Fils, te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, s'il vous plaît. Et fais de moi, par pure grâce de ta part, ton enfant, s'il vous plaît. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.